Le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Notre corps a besoin de nourriture, et combien nous pouvons lui être reconnaissants d'avoir pourvu tous les jours de notre vie pour nous donner notre pain matériel quotidien. Mais béni soient les hommes qui ont su se nourrir de sa parole. Nous allons faire quelques lectures. Je voudrais que ces lectures, ce message puisse amener plusieurs, sinon tous, à vivre la vie que Dieu veut que vous meniez. Dans Ésaïe au chapitre 8, il y a des prophéties qui ont été données aux hommes il y a 2800 ans. 2800 ans. Il y a des choses, je peux vous dire que ça fait des siècles que les hommes devraient le savoir. Ésaïe chapitre 8, verset 23. Un verset qui va être lu certainement aujourd'hui dans des dizaines, des centaines de milliers d'églises. Et pourtant, dans ces mêmes églises, combien d'hommes et de femmes sont dans les ténèbres. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le territoire des gentils, c'est nous, ce n'est pas les juifs, ce sont les païens, ce sont les étrangers, ce sont nous. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Au verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Amen. Vous pouvez garder cette page, nous allons lire le cantique de Zacharie dans l'évangile de Luc. Vous savez que Zacharie a été muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste parce qu'il n'a pas cru cette promesse. Et dans ce cantique, Luc chapitre 1er, verset 67 au verset 79, on voit un peu le plan de Dieu présenté. On va le lire. On va lire ce cantique. Le papa de Jean-Baptiste. Luc 1, 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en ces mots, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut et le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. » Le verset 74 nous rappelle quand même le plan de Dieu, nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et tout le monde devrait dire Amen. J'ai cité ce verset tout à l'heure lorsque nous avons commencé le moment de prière avant le culte. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. Voilà comment sont présentées presque toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Elle commence par cette prière, que la grâce et la paix vous soient données. Nous avons lu Nous avons lu cette prophétie, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Tiens, je vous pose la question, est-ce qu'il y a des angoisses aujourd'hui sur la terre? Est-ce que les gens sont angoissés? Oui. Pourquoi? Eh bien, les gens sont angoissés parce qu'ils n'ont pas reçu la lumière. C'est pas compliqué, c'est écrit plusieurs fois, on l'a lu. Les hommes sont angoissés parce qu'ils n'ont pas la paix, c'est une palissade. Les hommes sont angoissés parce qu'ils n'ont pas obtenu le pardon. On est tous des pécheurs. Vous avez entendu même Matthieu qui a donné son cœur à 17 ans, déjà exprimé que sa conscience était taraudée, qu'il était malheureux par rapport à certaines situations. À partir de quel âge on commence à être conscient du péché? Certains enfants très tôt. Regardez, Romina nous disait qu'elle avait donné son cœur à Jésus à 8 ans. C'est une grâce. La Bible dit, c'est des prophéties, qu'il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et nous allons voir de plus en plus la terre ébranlée, le système ébranlé. La terre sera ébranlée parce que les gens ne veulent pas de la grâce de Dieu. Les seuls qui peuvent marcher sans crainte, ce sont les chrétiens. Parce qu'ils sont à l'abri du jugement, parce qu'ils sont à l'abri de la colère, l'angoisse. Et l'angoisse, c'est terrible l'angoisse. Regardez avec moi ce texte dans Exode. Dans le livre de l'Exode, Dieu veut bénir son peuple. Ça fait 430 ans qu'ils sont esclaves en Égypte. Ils sont dans une souffrance pas possible. Le Pharaon les oppresse et Dieu envoie Moïse pour les délivrer. C'est extraordinaire. Le Seigneur savait et il sait. Quand est-ce que son temps est venu pour que quelqu'un se convertisse? Peut-être que ce matin, comme la prophétie l'a dit, c'est un rendez-vous que Dieu, vous devez écouter sérieusement. Une église, vous savez, les gens, des fois, ils comparent les églises, mais c'est ridicule de comparer les églises. Vous devez vous préparer à rencontrer Dieu. C'est ça l'église. Après qu'une église ait telle personnalité, telle façon de présenter l'évangile, c'est une chose. L'église, c'est un endroit où j'ai un rendez-vous avec Dieu. Mais les angoisses, c'est terrible. Regardez, Exode chapitre 6. Donc, Dieu parle, il les prépare, il envoie Moïse vers les anciens. Exode 6, verset 7. Regardez bien les conséquences de l'angoisse. Exode 6, verset 7. « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. » Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais, regardez bien, c'était le futur peuple de Dieu, en fait, c'était le peuple de Dieu. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et ça, c'est un problème grave lorsque l'angoisse, lorsque le diable, avec sa puissance, nous aveugle et nous empêche d'écouter. C'est un drame dans une église lorsque les gens ressortent et qu'ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. C'est un drame lorsque je lis la Bible, bien sûr ça peut arriver de temps en temps, mais quand continuellement l'angoisse, le mal, les ténèbres, alors que Dieu a dit les ténèbres ne régneront pas toujours. En tous les cas, les gens qui veulent la lumière, ils ont la lumière. Vous pouvez peut-être être des hypocrites et préférer les ténèbres à la lumière. Est-ce que c'est écrit ça? Qui c'est qui l'a dit que les gens préféreraient les ténèbres à la lumière? C'est le Seigneur. Il a dit les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et même dans le peuple de Dieu, c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit plusieurs fois, même dans les églises, il y a des gens qui préfèrent les ténèbres. Vous allez me dire, mais c'est pas possible. Eh bien écoutez, quand vous lisez dans la parole de Dieu que ceux en qui ces choses ne sont pas, c'est-à-dire la parole de Dieu, la Bible dit que celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Le Seigneur Jésus dira à la dernière église à laquelle il parle dans le Nouveau Testament, tu crois que tu es riche et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle. à une église qui se targuait de faire plein d'œuvres, et c'est beau les œuvres, et l'argent que nous avons, nous allons l'utiliser pour faire des œuvres dignes de ce nom, des œuvres qui correspondent à la volonté de Dieu. Il n'est pas possible que dans une église où il y a une vraie foi, on ne fasse pas d'œuvres. La foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, elle est inutile. Et si vous ne faites pas d'œuvres, j'en profite pour vous le dire, si vous ne, votre foi ne vous pousse pas à faire certaines choses pour Dieu, moi je vous plains, parce qu'il y a quand même un véritable problème. C'est la vérité. La foi sans les œuvres, elle est morte. Elle est inutile. Donc, l'angoisse, c'est pas la volonté de Dieu que les gens soient angoissés. Ça peut arriver qu'on passe des moments difficiles, on a des luttes, on a des combats, on peut même passer par un moment de déprime, etc. On voit même David qui a traversé des moments plus difficiles les uns que les autres, mais la confiance en Dieu l'a toujours ramené à la lumière. Et il disait, tu es ma lumière et mon salut. Les angoisses sont là. Vous croyez que les choses vont s'arranger? Moi, ça me fait rire. Enfin, ça me fait rire. C'est une façon de parler. Ça me fait rire quand on voit les spécialistes politiciens qui expliquent qu'avec eux, quand on aura voté pour eux, ils vont amener la bénédiction dans le pays. Vous avez remarqué comment eux disent, mais quand vous votez, si vous votez pour moi, tout va s'arranger. Il n'y aura plus de chômage, l'essence va baisser, les salaires vont monter, les charges vont baisser, etc. Oui, c'est presque un cantique. Mais après, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait pareil. Mais pourquoi? Ben parce que les hommes sont dans les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres. Nous, ce que nous voulons, c'est la lumière. Est-ce que vraiment vous voulez faire ce que Jésus a dit au travers du papa de Jean-Baptiste? Je le servirai sans crainte, je marcherai dans la lumière tous les jours de ma vie. Voilà le plan de Dieu, le projet de Dieu, c'est que nous ne soyons pas aspirés par ces temps d'angoisse, aspirés par ces temps difficiles. C'est écrit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles? Oui, c'est écrit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront cruels. Ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, insensibles, blasphémateurs. C'est écrit ou c'est pas écrit? Blasphémateurs. Les gens, quand on leur parlera de Dieu, ils blasphémeront, ils se moqueront. Vous l'avez certainement vérifié plusieurs fois. Vous avez parlé de Jésus à des gens qui avaient une moralité. Vous avez dit, je sais qu'ils vont bien réagir. Ça va bien se passer. Vous vous êtes rendu compte comme ils étaient pleins de ténèbres. Oui ou non? Pourquoi? Ben parce que les gens deviennent blasphémateurs ouvertement. Jésus a prophétisé que dans ces temps viendraient, on appellerait le bien mal et le mal bien. On pourrait prendre des multitudes d'exemples qui nous prouvent combien le monde, dans les derniers jours, a choisi le blasphème. On est loin de la prophétie d'Ésaïe, on l'appellera admirable. Est-ce que vous l'admirez, vous, le Seigneur Jésus? Est-ce que vous pourriez vous lever dans l'église et dire, oui, non, moi je ne fais pas partie des blasphémateurs. Moi, je fais partie de ceux qui admireront le Seigneur Jésus jusqu'au dernier souffle. Vous ne le faites pas, mais vous seriez capable de le faire, devant n'importe où, de dire, oui, non. Moi, j'admirerai le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on a chanté tout à l'heure ce chœur qu'on fait chanter souvent au Noël des enfants. Voyez de quel amour le Père nous a aimés. Vous le connaissez, ce chœur, hein? Il nous a appelés ses enfants. Vous savez, je voudrais vous amener un petit peu dans les mois à venir sur la perception de l'alliance biblique. C'est une nouvelle alliance qui a été établie sur le sang du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit que le sang, c'est le sang de l'alliance. Dieu a fait une alliance, elle est irrévocable. Le Seigneur Jésus a dit, voilà, l'alliance, on en a lu un petit morceau du contrat. Tu dis, voilà, comment vous m'appellerez? Admirable, Père éternel. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous prononcez ces deux mots, Père éternel? Franchement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait rien? Ou ça vous émeut vraiment? Moi, chaque fois que je dis Père éternel, ça me bénit. Parce que je sais que Jésus-Christ est mon Père pour l'éternité. Ça va traîner un moment. Pour l'éternité. Le Seigneur est notre Père. Il a fait une alliance. On l'appellera admirable, conseiller. Conseiller, qu'est-ce que vous avez fait des conseils du Seigneur toute l'année 2017? Tiens donc, combien de conseils avez-vous lu? Combien de conseils vous a-t-on donné? Combien la parole de Dieu vous a adressé certains conseils? Est-ce que vous savez combien de conseils Dieu vous a-t-il adressé? Combien? Combien? Deux? Beaucoup? Qu'est-ce que vous en faites des conseils? Comment vous les trouvez, les conseils du Seigneur? Est-ce que vous faites partie de cette quantité de chrétiens qui n'acceptent plus la parole, qui rejettent la parole, qui contestent avec Dieu? Et vous savez, comme on le partageait avec les responsables jeudi, Dieu a dit, avant le déluge, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment donné où si vous ne voulez pas céder à l'amour de Dieu, à la patience de Dieu, à la compassion de Dieu, etc., à la tendresse de Dieu, à un moment donné, c'est vous qui choisissez vous-même de vous endurcir. On le voit en ce moment, je lis l'Exode, et je vois bien combien Dieu, dans sa puissance, qui a créé les cieux et la terre, est capable de dire stop, stop. Tu ne veux plus m'écouter par les signes, tu ne veux plus m'écouter par ce que je suis en train de faire dans ta vie, eh bien c'est toi qui vas t'endurcir toi-même, comme Pharaon. Je ne sais pas où vous en êtes, mais vous savez, c'est un choix. Celui qui est dur ne peut pas se targuer de dire « moi je suis dur à cause d'eux, moi je suis dans la souffrance à cause d'eux, j'ai vécu... » Non, 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 non. Le Seigneur, il est tout puissant. Voilà l'alliance qu'il a faite avec nous, voilà comment vous m'appellerez. Jésus ne sait pas abroger le titre de dire tout le temps « je suis le Tout-Puissant, je suis tout le temps ». Il était le Tout-Puissant. Il n'avait pas besoin de le dire. Ça se voyait assez. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vraiment vous pouvez dire ce matin, dans votre cœur, si vous le connaissez, il est le Tout-Puissant. Il n'est pas puissant. Le diable est puissant. Mais sa puissance est limitée. Le Seigneur Dieu est Tout-Puissant. Voilà comment vous l'appellerez. Voilà l'alliance que moi, le Seigneur, je fais avec vous. Vous m'appellerez le Tout-Puissant. Vous croyez que Dieu est Tout-Puissant malgré le fait que la terre soit ébranlée, que le monde est ébranlé, que tout va s'écrouler? Mais ceux qui seront sur le fondement ne s'écrouleront pas, parce que le Seigneur Jésus-Christ a promis que la grâce et la paix vous seraient données et multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. On l'appellera le Tout-Puissant. Oui, nous aurons des tribulations. Jésus l'a dit, il l'a pas dit? Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire qu'on a des épreuves, des contrariétés. On est éprouvé dans un domaine, dans un autre, dans la santé. Est-ce que ça peut être la santé une fois? Oui, ça peut être le couple. Est-ce qu'on peut être éprouvé dans le couple? Combien, hélas, de couples ont décroché parce qu'ils n'ont pas compris l'épreuve qu'ils traversaient. Ils n'ont pas compris la difficulté dans laquelle ils étaient peut-être amenés à être formés. Parce qu'il y a des choses qui nous forment dans toutes les épreuves qu'on traverse. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Vous savez, quand on chantait le cantique qui est tiré d'une parabole de Jésus sur la prière, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. C'est clair que Dieu est bon et il est capable de nous donner. Mais j'ai bien peur que quand on va passer devant Dieu, on regrette d'être passé à côté de tout ce que Dieu aurait pu nous donner et qu'on n'a pas saisi. Parce que cette parabole, elle est quand même la preuve que même si on n'a rien à offrir, nous, on a un ami céleste qui peut, lui, nous donner tout ce dont on a besoin. Alors on peut chanter ce cantique d'une manière un petit peu tranquillisante en disant « j'ai rien à offrir, ça fait 20 ans que ça dure, j'ai rien à offrir, ce cantique me va très bien, ça me va très bien ce cantique ». Je ne pense pas que c'est ça que ça veut dire. Ce cantique veut nous dire que même si on n'a rien à offrir, Dieu a dit « demandez et vous recevrez ». Et je crois que nous avons un Dieu capable, s'il est tout puissant. Sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire, tout puissant? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans les jours que vous êtes en train de vivre, par rapport à la maladie d'un de vos enfants, par rapport à un travail qui peut-être se termine? Est-ce que Dieu est tout puissant? Est-ce que vous pouvez, dans un moment de communion avec lui, dire, Seigneur, oui, tu es le tout puissant. Tu es tout puissant. Vous vous rappelez quand l'ange Gabriel est entré dans la maison de Marie pour justement lui annoncer qu'elle avait été choisie de toute éternité? Vous rendez compte, cette jeune fille qui avait peut-être 17 ans, quel âge elle avait, Marie, quand l'ange Gabriel est rentré dans sa maison? Vous rendez compte, sans frapper, sans rien, c'est gens impoli. Hein, vous rendez compte, l'ange Gabriel qui rentre dans sa maison et qui dit « une grâce t'a été faite ». Et quand elle dit, mais comment je pourrais avoir un enfant? Comment je ne connais pas d'homme, même si elle était fiancée? Rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez ça, que rien n'est impossible à Dieu? Mais mes frères et sœurs, voyez, on va répéter, dans toutes les églises du monde aujourd'hui, dans toutes les églises, on va rappeler l'alliance. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous soyez pétris de par ce verset, bouleversés par ce verset. Il est tout puissant. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? Il est tout puissant. Je ne sais pas si vous avez 5 enfants, est-ce que Dieu peut sauver vos 5 enfants? Est-ce que Dieu a le pouvoir de les convaincre? Est-ce que Dieu a le pouvoir d'intervenir dans telle situation, dans telle autre? Il est admirable par sa sagesse. L'autre fois, je vous l'ai dit, je crois, je regardais sur un site d'astronomie, pourquoi certaines étoiles, qui sont des centaines de fois plus grosses que le soleil, n'éclairent pas la nuit. Parce que vous pouvez le calculer comme vous voulez. Je ne suis pas un astronome. Mais frères et sœurs, comment ça se fait que Bethelgeuse, écoutez bien si je ne sors pas de mon sujet, Bethelgeuse, elle est 1300 fois plus grosse que le soleil. Je vous assure, c'est vraiment une grosse boule. Cette étoile, et c'est un scientifique, pas, il était, je ne sais pas s'il est chrétien, en tous les cas, il expliquait que Bethelgeuse, qui est dans la constellation d'Orion, du Baudrier, tout ça, elle devrait nous éclairer. Plus que le soleil, puisqu'elle est 1300 fois plus grosse que le soleil. Et le scientifique disait, mais je ne comprends pas, normalement, la nuit devrait faire jour. Parce que ces étoiles envoient plus de rayons, plus d'éclairage, de luminosité que le soleil. C'est un mystère, on ne comprend pas pourquoi. Et moi j'avais envie de lui écrire, je lui ai dit, mais moi je sais pourquoi. Parce que Dieu a créé le jour et il a créé la nuit. Et s'il veut que la lumière de ces grandes étoiles, immenses étoiles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, n'arrive pas sur la terre pour qu'on reste dans la nuit, ça fait partie de la toute-puissance de Dieu. Il est tout-puissant, le Seigneur. Mes frères et sœurs, il est tout-puissant. Et je voudrais que nous écoutions juste, je ne veux pas être long ce matin, vraiment pas long, mais je voudrais que vous soyez soucieux par rapport à quelques conseils. Regardez, ça c'est une loi, Matthieu 6, 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et après, la promesse, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Je vous rappelle que c'est Dieu qui parle, le Seigneur Jésus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous entendez? L'angoisse l'empêchait d'écouter Moïse. Est-ce que vous entendez, frères et sœurs? Sérieusement. Est-ce que vous croyez cette parole? Qu'est-ce que vous en faites vraiment? Vous pourriez dire, ben oui, c'est pas, je la crois, mais je ne la vis pas. Est-ce que vous entendez ou est-ce que les angoisses vous empêchent d'écouter? Le lendemain aura soin de lui-même. Et en plus, il ajoute, vous voyez, pour qu'on comprenne bien que même s'il faut se réjouir tous les jours, à chaque jour, suffit sa peine. Parce qu'il y a quand même des choses qui nous peinent. On n'est pas de bois et de pierre, on a un cœur. Mais ça ne fait rien. Toutes ces peines, on les dépose aux pieds du Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est Jésus, le Tout-Puissant, qui dans son immense bonté, parce qu'il n'était pas obligé de le faire, nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que demain, je prendrai soin de toi. Le lendemain aura soin de lui-même. Vous le croyez, ça? Franchement, est-ce que vous le croyez vraiment? Est-ce que vous réalisez la profondeur du conseil de Dieu? Moi, je suis bouleversé parce que je sais qu'il y a des pays, en Afrique, en Asie, ils n'ont pas encore la Bible dans leur langue. Est-ce que vous croyez que c'est une grâce d'avoir la Bible dans notre langue? Est-ce que vous vous rendez compte? On peut lire quelque chose qui est sorti du cœur de Dieu. C'est écrit que ces paroles sont sorties de la bouche de Dieu, du cœur de Dieu qui nous a créés. Si vous n'êtes pas chrétien, ce verset ne vous concerne pas. Je vous le dis honnêtement, ne jouez pas la comédie. Si vous êtes dans les ténèbres, la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur vous. Et ne jouez pas avec ces choses. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Vous pouvez vous amuser avec nous, vous moquer de nous, ce n'est pas grave. Mais ne vous moquez pas de Dieu. Parce que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Si vous n'êtes pas chrétien, je le dis, ce n'est pas pour vous. Mais ça ne tient qu'à vous de dire, mais Dieu deviendra mon Père. Mon Père éternel. Et je vais m'appliquer à comprendre ce qu'il veut. Comme Matthieu l'a dit, je vais chercher premièrement. Vous voyez, il a été honnête, il a dit lisez la Bible pour la lire. Il était dans sa conscience, il était un peu travaillé, mais sa foi n'était pas vivante. Il l'a expliqué, tout ça, c'était bien expliqué. Mais un jour, ce verset l'a amené à la croix. Et à la croix, la parole de Dieu l'a béni. Ne t'inquiète pas, les jeunes, ne vous inquiétez pas du lendemain. Les jeunes, ne vous inquiétez pas du lendemain. Les personnes âgées non plus. Mais les jeunes, on vous fait tellement de mal. Les professeurs, vous n'aurez jamais de travail. Vous savez, les professeurs, ils ne sont pas inspirés tous par le Seigneur. Hein. Et vous avez vu, vous n'y arriverez pas. Quand vous aurez 25 ans, vous n'aurez pas de boulot. Il n'y aura pas de travail. Vous étudiez pour rien. On a des profs. J'espère que les profs qui sont ici sont bien. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Le lendemain aura soin de lui-même. Ça, c'est l'alliance. Il s'est engagé, le Seigneur. Et vous pouvez dire, si vous n'avez pas de travail, Seigneur, donne-moi le travail dont j'ai besoin. Dieu pourvoira. Et ça ne serait pas une veine perdue qu'un dimanche de prendre les 150 attributs de Dieu, de les prendre tous. Peut-être qu'un jour je le ferai. Est-ce que ça vous intéresse? Hein? Toutes les fois où Dieu est présenté sous un nom différent. Là, on en a vu 5 dans Ésaïe qui rappellent l'alliance, mais quand Dieu dit qu'il s'appelle Jéhovah Jiré, il a fait une alliance. Il a signé l'alliance, il n'a pas signé avec, vous voyez, nous on fait des alliances, on se rétracte, les gens ils se marient, ils divorcent, tout ça. Et je ne veux pas le juger. S'il y a un divorcé, ne vous inquiétez pas, je veux penser, on est là pour vous aider. Vraiment, croyez-moi. Mais c'est pour vous expliquer la différence qu'il y a entre la façon dont Dieu fait une alliance et nous. Quand Dieu fait une alliance, elle est irrévocable. Il s'appellera votre Père pour l'éternité. Quand vous le croiserez dans le ciel, vous pourrez lui dire Père éternel. Je pense que vous aurez de la joie de lui dire pour l'éternité Père éternel. Père éternel, ça vaudrait la peine, oui, de prendre tous les attributs de Dieu. Ça vaudrait la peine de voir comment les hommes ont parlé à Jésus, comment ils l'ont traité, comment ils se sont moqués de lui, comment ils l'ont insulté, dont le rappeler ce matin, les gens lui ont arraché la barbe. Il n'a rien dit. Il était le Seigneur des Seigneurs. Quand on s'est moqué de lui, quand on lui a mis la couronne d'épines, qu'on lui a jeté, vous savez, ces espèces de capes là qu'avaient les chefs, les centeniers, ils avaient une cape rouge pour se démarquer, bien sûr, des soldats. Et on l'a jeté sur lui, on s'est moqué de lui. On a tapé sur sa tête lorsqu'il avait la couronne d'épines. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Est-ce qu'il aurait pu, comme dans le jardin de Gethsémané, quand il a dit « c'est moi », qu'est-ce qui s'est passé, au fait? Il a juste dit « c'est moi », tous sont tombés. Alors j'imagine, s'il avait dit « je voudrais 380 anges là qui fassent le ménage dans les 3 secondes. Dans la seconde qui suivait, il n'y avait plus personne. C'est écrit ou c'est pas écrit quelque part? Je le paraphrase, mais c'est écrit. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous a tout donné pour qu'on le serve sans crainte tous les jours de notre vie. Pour qu'on le serve avec joie tous les jours. Je sais qu'il y a un temps pour tout, on l'a lu. Mais quand même, la joie du salut, c'est une joie qui part pas quand même. Est-ce qu'elle peut partir, la joie du salut? Alors, ça c'est une question. Oui, je sais, je l'ai vécu. J'étais tellement mal que j'ai même perdu la joie du salut. Je pense que ça a été la période la plus triste de ma vie. Mais Dieu la redonne. Quand il est tout puissant, il est capable de vous redonner ce que vous avez perdu. Vous savez, je termine avec cette pensée. Quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », vous savez quand est-ce que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde » Quand est-ce qu'il a dit? Lors d'une fête. C'était quelle fête? La fête de la Hanouka. C'est la fête... Regardez, on va juste terminer avec ça. Voilà. Tu fais 10 ans de plus, tu l'as cherché. Voilà, écoute. Remarque, c'est peut-être moi qui ne vais pas rire. Alors, c'était dans Jean chapitre 10, 12. 10. Ce fameux chapitre où il parle qu'il est le bon berger, que les brebis, elles connaissent sa voix, que les brebis, elles aiment sa voix. Vous aimez la voix du Seigneur? Dans ce contexte merveilleux où Jésus dit « Mais mes brebis, elles me suivent, nul ne les ravira de ma main. » C'est un chapitre merveilleux, vraiment, où les brebis, elles connaissent ma voix. Un chrétien, quand il ouvre la Bible, il sait que ça vient de Dieu, il le sait. Alors, c'est au verset 22, c'était l'hiver, donc on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, la fameuse Hanouka. C'était l'hiver. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus a parlé de lumière, de résurrection, de vie. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la fête de la dédicace. Est-ce que vous savez ce que c'est? La fête de la dédicace, c'est la fête que les Juifs viennent de fêter il y a quelques jours. Ça change parce qu'eux, ils ont des mois lunaires. Nous, c'est chaque année le 25 décembre, mais eux, ils l'ont fêté il y a 15 jours. La Hanouka, c'est la fête de la lumière. Écoutez bien, c'est écrit. Jésus a certainement fêté cette fête. Vous savez ce qui s'est passé? Je vous le résume parce que c'est intéressant. En 169 avant Jésus-Christ, il y avait un oppresseur qui opprimait Israël. Il s'appelait Antiochus Épiphane. Cet homme opprimait Israël, comme ça a été souvent le cas hélas, et il a été jusqu'à pousser l'abomination à sacrifier une truie sur l'autel du temple. C'était en 169 avant Jésus-Christ. Et là, ça a été insupportable pour les Juifs, et ils se sont révoltés, et ils ont chassé l'ennemi de Jérusalem, et ils ont bien sûr de suite voulu restaurer le temple, ouvrir les portes, mettre le chandelier, etc. Et quand ils ont cherché de l'huile pour le chandelier, ils ont trouvé juste une petite fuite d'huile consacrée, parce qu'il fallait 8 jours pour préparer de l'huile, et il n'y avait que de l'huile pour une nuit. Mais ça fait rien, comme ils obéissaient, ils voulaient obéir à Dieu, donc ils ont allumé le chandelier avec le peu d'huile qui restait, et le miracle s'est passé, le miracle a fait que le chandelier est resté allumé pendant 8 jours, le temps qu'ils fabriquent de l'huile consacrée. Et c'est à partir de là qu'ils ont célébré la Hanouka, la fête de la lumière, la dédicace. Ça fait que tous les soirs, à cette fête-là, le premier soir, les Juifs, ils vont au temple et ils prennent leur lampe et ils allument avec la lampe du chandelier, ils allument, parce qu'il fallait aller au temple, et le premier soir, ils allumaient la première lampe. Et le deuxième soir, ils allumaient la deuxième lampe. Et le troisième soir, ainsi jusqu'au huitième soir. Et c'est quand, regardez bien, quand Jérusalem était inondé de lumière, Jésus s'est présenté et il a dit, je suis la lumière du monde. Et moi, quand je vois tout, moi j'aime bien les guirlandes, enfin pas les guirlandes, les lumières sur les squares, tout ça. Parce que chaque fois que j'en vois, je pense à Jésus, qui est la lumière du monde. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire, il est la lumière du monde, je ne craindrai rien. Il prendra soin de moi parce qu'il est mon conseiller. J'aurai le conseil qu'il faut. Peut-être que demain, vous aurez besoin d'un conseil. Vous le trouverez. Vous croyez que vous le trouverez. Mais bien sûr, vous aurez besoin de tendresse parce qu'à des moments, on est affligé et on a besoin de tendresse. Est-ce que ça arrive d'avoir besoin de tendresse? Ou est-ce qu'il n'y a que les jeunes filles qui ont besoin de tendresse? Est-ce que les messieurs forts et costauds ont besoin de tendresse? Et vous répondez pas? Est-ce que les messieurs costauds ont besoin de tendresse aussi? Eh bien oui, on a tous besoin de tendresse. Oui ou non? C'est écrit, comme un homme que sa mère console, je vous consolerai. Mes frères et sœurs, j'aurai besoin de tendresse. Eh bien le Seigneur me l'accordera. Oh, j'aimerais avoir de la tendresse de mon épouse. Mais peut-être que votre épouse, elle n'est pas forcément bien disposée. Est-ce que ça peut arriver que notre conjoint ne soit pas toujours bien disposé? Est-ce que ça peut arriver? Soyons honnêtes. Bien sûr que c'est bien quand même, quand on est plein d'affection les uns pour les autres. Vous voyez? Tu vois, moi je me souviens quand j'étais stagiaire, j'étais affectueux avec mon pasteur. Ouais, bon. Mais bon, c'était avant. Mais est-ce qu'on a besoin d'affection? Oui, on a besoin d'affection. Mais si quelqu'un ne l'avait pas parce que les circonstances font que les gens autour de vous sont découragés, est-ce que Dieu peut être ce Père éternel qui vous accordera sa tendresse? Oui, si j'ai besoin d'un conseil, je le recevrai, mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin pour ceux qui le cherchent. Si vous ne cherchez pas Dieu, ne vous étonnez pas de ne pas avoir de conseils, parce que ne vous imaginez pas que vous allez pouvoir vous présenter devant Dieu en disant j'avais besoin d'un conseil, tu ne me l'as pas donné. Non, non, non. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Reste à savoir de quel côté on sera, si Jésus sera notre avocat ou si Jésus sera notre juge. Que Dieu fasse que dans cette assemblée, il soit pour tout le monde notre avocat. Mes frères et sœurs, un conseil. Oui, je n'ai pas besoin de m'inquiéter du lendemain. Alléluia. Moi, vous avez remarqué, je ne dis pas souvent Alléluia dans les prédications. Mais il y a des fois quand même, on peut dire gloire à Dieu quand même. Quand je sais, quand tu sais que l'alliance du Seigneur s'est engagée à dire le lendemain aura soin de lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ne déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On pourrait les citer tous, alors vous allez me dire, mais je les connais. Non, vous ne les connaissez pas. Si vous ne les vivez pas, vous ne les connaissez pas. Ne me faites pas le coup à la sortie de me dire, monsieur Go, on les connaît ces promesses. Si vous ne les vivez pas, c'est que vous ne les connaissez pas. Parce que Jésus ne ment pas quand il dit « mon fils, ma fille, mon enfant, je prendrai soin de toi ». Quand Dieu dit dans l'épître de Jean « vous êtes forts, petits enfants, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin et le malin ne vous touche pas ». Mes frères et sœurs, si vous marchez avec le Seigneur, le malin, il ne vous touchera pas. On va terminer avec... Vraiment, cette fois-ci, c'est vrai, pour de vrai. Regardez, j'aimerais que vous le lisiez, parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur du diable, ça fait pitié quand même. Que c'est triste, des chrétiens qui ont toujours peur du diable. On devrait avoir le respect de Dieu, mes frères et sœurs, croyez-moi. Regardez ces textes. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand Jésus leur a dit « mais je vous donne ma paix, je vous donne ma joie », vous savez ce qu'il ajoute juste après ?« Je vous ai dit ces choses, et la tristesse a rempli votre cœur ». Ça fait vraiment mal au cœur, ça prouve qu'on n'écoute pas. Mais il y en a même chez nous, des chrétiens qui ont peur du diable. Ça fait mal au cœur quand même. 1 Jean chapitre 5. Regardez versets 17 à 19. Et je vous ferai remarquer que ça ne commence pas par nous sentons, ou nous aimerions, ou nous avons l'impression. Nous savons. C'est-à-dire que ça a été une expérience. Voyez, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Nous savons. Alléluia. C'est important ça. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alléluia. Si vous obéissez, le malin ne vous touchera pas. Il peut vous oppresser dans certaines situations, il peut y avoir des tentations, des combats qui viennent pas que du diable, de la chair aussi. Mais laissez-moi vous dire que si vous restez sous le sang du Seigneur, le malin ne vous touchera pas. Que son nom soit béni. Nous savons, voyez, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Les informations sont sous la puissance du malin, etc. Mais nous sommes dans le Seigneur. Alléluia. Hein? Alors, mes frères et sœurs, on va demander à Dieu qu'il nous fasse grâce. On va le servir sans crainte, jusqu'à l'enlèvement. Il y a quelqu'un qui dit, moi je veux te glorifier Seigneur. Je veux te glorifier jusqu'à la fin. Je ne veux pas être un chrétien qui rende un témoignage lamentable, minable dans ma famille. Je voudrais que mes enfants voient un papa qui te glorifie. Je voudrais que les enfants voient une maman qui est dans la paix. C'est pas beau une maison qui est dans la paix? Tout à l'heure, on va rentrer ce soir, je ne sais pas si vous faites un repas, s'il y a du foie gras ou pas, c'est pas grave. Bénissez le Seigneur si vous avez pu vous acheter de bonnes choses. Remerciez le Seigneur pour tout ce que vous avez pu acheter en plus. Mais mes frères et sœurs, le plus grand cadeau dans la maison, c'est la paix de Dieu. Le pardon des péchés, la grâce. Seigneur, tu es mon conseiller. De même, tu seras mon conseiller. Mon Père, pour l'éternité, voilà le grand cadeau. Non, les ténèbres ne règnent pas lorsque les gens marchent avec Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, que le nom du Seigneur soit béni.